Bonsoir, Madame Hertel.
Et bonsoir.
Pour notre dernière émission, et donc quelque part un peu notre conclusion, j'aimerais jouer un petit jeu avec vous, si vous en êtes d'accord.
Ben écoutez, il faut que je sache en quoi consiste le jeu d'abord.
Alors, non, je ne vais pas vous en donner les règles tout de suite. Mais en revanche, je vais vous lire quelques vers. Mm-hmm. Ça s'appelle « Il ». Un nuage s'est étiré à quatre pattes et ne sait s'il doit pivoter sur son cou ou pas. Deux femmes se sont endormies à une table. Dans leur chevelure grise, racines profondes, tronc humide, bec d'oiseau. De leurs rêves s'écaillent des îles sur de lointaines mers brumeuses. Et je vais vous relire le même poème, mais autrement.
Allez-y.
Vous acceptez de jouer un petit peu avec moi alors, hein?
Oui, oui.
Pour le moment.
Oui.
Un nuage s'est allongé de quatre côtés et ne sait pas s'il doit ou non tourner le cou. Deux femmes se sont assoupies à la table, dans leur tête grise, de grands arbres mouillés sans racines plongent des oiseaux. Et de leurs songes s'effilochent des îles sur de lointaines mers brumeuses. Ça s'appelle Île, c'est de Zirlinski. Mm-hmm. Laquelle des traductions est la vôtre, Madame Hertel?
Je préfère la première.
C'est la vôtre. Merci, madame. Merci, Angela Hertel, d'avoir joué avec moi. Donc, vous n'avez pas répondu à ma question, mais vous préférez la première. C'est extraordinaire. Vous me faites une transition formidable. Et pourquoi donc, Angela Hertel, préférez-vous la première? Vous qui ne savez pas que c'est la vôtre.
Écoutez, pourquoi je préfère la première? Parce que je la trouve plus imaginative. Et je pense que peut-être la deuxième est plus fidèle. Je n'en sais rien. Mais je trouve qu'elle est moins imaginative.
Alors, qu'est-ce que vous appelleriez une traduction plus imaginative? Ça veut dire quoi pour vous, ça?
Eh bien, alors, il faudrait prendre chacun des vers, mais je pense que dans le premier, il y a plus d'images que dans le second.
D'accord. Donc, c'est l'idée de imaginative au sens de image.
Image, oui.
Et est-ce qu'on pouvait aussi comprendre imaginative comme inventive?
Oui.
Aussi.
Aussi.
Donc, comme jouer avec la langue.
Oui.
Jouer avec la langue française.
Absolument.
Très bien. Alors, voyez-vous, on a fait un petit jeu de comparaison de traduction. Et ce petit jeu me rappelle ce que l'une de vos anciennes étudiantes, je crois, Carole Matheron, vous avait dit dans une soirée à la maison de la culture yiddish, il y a deux ans, je crois. Elle vous disait, je la cite, Batia Baum ne traduit pas comme vous, Rachel Hertel. Votre traduction donne au poète que vous traduisez de la modernité. Votre traduction est à l'image de votre interprétation du texte.
Absolument.
Est-ce que vous pouvez nous parler justement de cette volonté de mettre en évidence cette modernité? Vous nous en avez dit quelques mots dans une précédente émission. Est-ce qu'on peut maintenant en parler du point de vue de la traduction?
Du point de vue de la traduction, sans trahir le poète, l'interprétation la plus riche est, à mon sens, la meilleure traduction.
Donc, richesse ne veut pas forcément dire modernisme.
Non. Mais je pense que, justement, dans la mesure où le yiddish a été méprisé, a été comment dire, appelé un jargon, alors que c'est absolument enfin, faux, historiquement parlant, hein, c'était vraiment des attitudes partisanes, hein, c'était... je pense que la modernité se permet des interprétations plus qui nous parlent plus. Peut-être que dans une génération, si quelqu'un le traduit, il le traduira autrement. Je pense que la traduction est une forme d'interprétation, une forme d'écriture, une forme d'interprétation. Et plus la forme est inventive, plus, sans trahir, à condition qu'il ne trahisse pas le poète, plus elle est, à mon sens, moderne, parce qu'elle nous parle à nous maintenant.
D'accord, c'est cette volonté d'ancrer finalement dans le hic et nunc une poésie qu'on pourrait avoir avec des clichés, enfin considérer de façon cliché, voilà, des stéréotypes, oui. comme quelque chose appartenant à un autre monde, une autre époque. Alors vous dites traduction, forme d'interprétation, oui tout à fait, et vous dites aussi traduction, forme d'écriture. Est-ce que vous vous sentez écrivain, Rachel Hertel, lorsque vous traduisez?
Non, je suis trop humble pour ça. Mais j'ai du plaisir à traduire, comme on doit avoir du plaisir à écrire, je pense. Je pense effectivement que, enfin, quand on parle des deux traductions là qu'on a, je pense que je suis plus créative que, je ne peux pas dire écrivain, parce que je m'appuie sur le poète, mais je peux en même temps réserver une part de création sans toujours trahir le poète.
Donc traduction, création.
Oui,
traduction, moi, interprétation, oui, création, ça serait en fait peut-être, voilà, interprétation, création, ça serait les deux mots clés pour pouvoir définir, d'après vous, votre activité, votre de traductrice. Oui. Est-ce que vous avez le sentiment dans ce voilà, l'ensemble de vos traductions, qui sont extrêmement nombreuses, hein, aussi bien du côté de la prose que du côté de la poésie, et je ne parle pas de tout ce que vous avez dirigé, piloté, hein, je pense à Royaume juif par exemple, ou à toutes les d'autres anthologies que vous avez faites, la première de Soutzkever où vous avez dirigé. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir fait une œuvre? Et est-ce que c'est ça d'ailleurs que l'Académie française a célébré en vous remettant son prix en début d'année?
Je pense que... Oui, je pense que c'est une œuvre. Qu'est-ce que ça veut dire comment dites-vous en grec faire?
Ah oui, poyein.
Poyein. Voilà, ben, je crois que c'est ça. C'est-à-dire que j'ai fait quelque chose.
Et donc vous êtes un poète alors?
Non.
Puisque le poète est celui qui fait.
Oui, mais c'est en même temps celui qui fait.
Ouais.
C'est aussi un artisan.
Un artisan.
Voilà, c'est un artisan, c'est un... Je ne me dirais pas des murges, contrairement à Soutzkever. Mais je dirais que j'ai fait quelque chose, oui.
Vous avez fait quelque chose. Et si on remplaçait le quelque chose, et si on mettait, voilà, ça, est-ce qu'on pourrait dire j'ai fait une œuvre? Est-ce que le terme d'œuvre vous convient ou vous êtes encore trop modeste pour ça?
Non, je ne suis pas. C'est pas une question de modestie. Je suis en train vraiment de réfléchir.
Oui, oui.
Oui, je crois que la traduction est une œuvre.
D'accord. Traduction, interprétation, création. Qui amène à cette notion d'œuvre. Alors, un jour, je vous avais dit, il y a un an et demi, que j'écrirai et je le ferai pour démontrer que votre essai dans la langue de personne est une œuvre poétique à part entière. Et quand je vous ai dit ça, vous m'avez dit c'est incroyable. Alors moi je manque de modestie parce que je révèle les choses. Vous m'avez dit, Lanzmann m'a dit la même chose. Vous imaginez, je pense comme Lanzmann. Oh là là. En tout cas voilà, Lanzmann et moi nous pensons que dans la langue de personne, et je n'en savais rien, est une véritable œuvre poétique. Comment vous réagissez à ça?
C'est un tissage. C'est-à-dire que j'ai entretissé les poètes et moi-même.
Vous m'aviez jamais dit ça comme ça.
Parce que je n'y ai pas pensé.
Vous avez entretissé les poèmes et vous-même. Et comment vous...
Il y a énormément de citations dans la langue de personne. Et j'ai véritablement tissé entre moi et puis les poètes dont je parlais. Et que je citais, je leur ai laissé la parole, je leur ai donné la parole.
Vous avez partagé la page avec eux.
J'ai partagé la parole avec eux, oui.
Et comment on sort de ce genre de tissage une fois qu'on l'a terminé? Une fois que la toile Pénélope a été faite, on l'a défait?
Écoutez, ça dépend, enfin, on sort épuisé. On sort épuisé, mais en même temps, on a l'impression d'avoir fait quelque chose.
Alors, Séverine, l'autre fois, m'a gentiment mis un petit message pour me dire « Je viens d'écouter la cinquième émission, je crois, avec Stéphane Bou. » Et Rachel Herten nous dit qu'elle a aussi traduit du français en yiddish.
Non, j'ai très peu traduit du français en yiddish.
Très peu, mais vous l'avez fait quand même.
J'ai traduit de l'anglais en français, oui.
Alors, de l'anglais en français, et du français au yiddish, vous l'avez fait très peu, mais vous l'avez
très
fait
peu.
Quand même un peu.
Je l'ai fait, mais enfin, je ne dirais pas que c'est une œuvre.
D'accord. Et c'était à quelle période de votre vie?
C'était... C'était quand je vivais en yiddish.
Quand vous viviez en yiddish?
Dans un entourage yiddishophone.
Dans le Falanster? Donc vous étiez jeune?
J'étais très jeune.
Donc c'était au moment où finalement vous découvriez la littérature française dont on a parlé avec Alain Pujat dans la première émission.
Oui.
Et vous vous rappelez quels sont les textes ou les auteurs français que vous avez un peu traduits? Vous ne vous souvenez plus?
Non, le temps a passé.
Ouais.
Et peut-être que ça ne valait pas la peine de s'en souvenir.
Je vous pose cette question parce que vous-même, dans la postface de Cagliostro, hein, cette revue que vous avez, avec d'autres, participé à republier en France, vous insistez sur le fait qu'il y a eu des poètes yiddish qui ont vécu en France, on pense à Litvin, qui ont participé à traduire, à faire connaître, hein, d'ailleurs dans le monde yiddish, cette littérature française ou la littérature européenne. Et c'est pour ça que je m'interrogeais sur votre rôle dans cette...
Non, moi je n'ai pas participé à ça, mais Litvin l'a beaucoup fait, d'autres l'ont fait. Vous savez, j'ai là quelque chose, j'ai Spinoza en yiddish.
Ah oui?
Oui. Donc, traduit entre les deux guerres. J'ai Freud, la première traduction de Freud est en yiddish. Il traduisait tout. Et cette blague qui court dans les milieux yiddishophones, c'est une mère qui demande à sa fille « Est-ce que tu as lu Zola ?» La fille lui dit « Évidemment que j'ai lu Zola. » « Oui, mais tu l'as lu en quelle langue ?»« En français. » « Ça ne vaut rien, il faut la lire en yiddish. »
qu'on a démarré notre dialogue par un jeu. On est en train de l'achever par une blague qui est effectivement excellente. Alors, peut-être pour conclure, Rachel Hertel, au tout début donc, de ces entretiens, hein, la première émission, Alain Pujat a rappelé qui nous étions, qui était Mémoire à l'œuvre et ce qu'elle faisait. Donc, nous sommes effectivement des enseignants, des inspecteurs, et nous souhaitons, par cette interview que nous avons réalisée avec vous, et bien maintenant depuis presque 4 heures.
je peux vous dire que je n'ai pas vu le temps passer.
L'une de nos ambitions, et vous le savez, c'est aussi pourquoi nous avons des ressources pédagogiques sur le site de Mémoire en Jeu, consacrées à des auteurs yiddish. Et que nous avons fait aussi un séminaire au Collège international de philosophie sur cette littérature de Rourben à l'automne. Vous le savez, notre ambition est de faire connaître ces textes dans les classes.
Je suis absolument ravie.
Et voilà, et je voulais vous entendre réagir là-dessus, puisque je sais que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, que nos élèves, petits et grands, allophones et non-allophones, puissent avoir accès à cette littérature.
C'est effectivement un souhait que je formule, et vous m'encouragez à le formuler, parce que qu'est-ce qui a lu mon extrait du monde, c'est vous. Oui, eh bien, peut-être que si on en parlait maintenant, je serais moins pessimiste.
Eh bien, on va tout faire, Rachel Hertel, pour que vous soyez moins pessimiste et que votre immense travail, votre immense œuvre puisse rentrer dans les classes, et ça commence d'ailleurs à se faire.
Absolument ravie de l'entendre.
On vous remercie infiniment et on vous dit à